Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter la meilleure année possible. Une année qui débute peut-être pour vous avec les batteries à plat. Selon une étude récente de la Fondation Jean Jaurès auprès de 16 000 personnes, la fatigue arrive en tête pour caractériser votre état d'esprit en ce moment. Tous fatigués, titrait même Le Parisien à sa une il y a quelques semaines. Fatigue liée à l'hiver, à la charge mentale, à la surcharge de travail, épuisement associé à la crise sanitaire. Coup de barre face au climat sociopolitique anxiogène. Après avoir établi le portrait robot des Françaises et des Français crevés, nous partagerons des conseils pour ne plus subir cette fatigue qui pèse sur nos épaules, des conseils naturels pour en faire une alliée, car la fatigue reste un signal essentiel qu'il faut savoir écouter. Et vous, racontez-nous votre état de fatigue et vos moyens pour y remédier. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier, bonne année à vous. Quel est le menu de votre chronique ?
Bonne année Ali. Eh bien, écoutez, je vais vous lire une lettre qui m'a fait réfléchir sur les émotions qui me traversent en ce moment en tant que soignant confronté à la pandémie.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Il y a des remèdes de bonne femme, évidemment. Moi, je sais que maman, quand elle était petite, on lui faisait un truc extraordinaire, mais on lui faisait prendre du fer. Alors, pour ça, on remplissait une bouteille d'eau, on mettait dedans des clous, bonne poignée de clous, on attendait que la situation rouille. Et quand c'était bien rouillé, l'eau était toute noire, toute brunâtre, alors elle buvait un verre par jour de la décoction, alors après une forme olympique. J'étais élevée à la campagne, et quand j'étais petite, au printemps, en fin de l'hiver, tout le monde prenait une purge, les vieux, les jeunes. Alors pendant 8 jours, ils avaient une colique épouvantable, mais après, qu'est-ce qu'ils se sentaient prêts? Ça faisait passer les petits boutons, enfin, les gens étaient très contents.
Alors rassurez-vous, ce matin, pas de décoction de clous ni de purge pour lutter naturellement contre la fatigue. Bonjour docteur Laurent Chevalier, bienvenue.
Bonjour.
En duplex de France Bleu à Montpellier, vous êtes médecin nutritionniste et botaniste. On peut lire avec profit, moins de médicaments, plus de plantes au livre de poche. Bonjour Caroline Gaillet.
Bonjour Ali.
Vous êtes diététicienne et phytothérapeute, la co-autrice avec Charlotte Jacquet de Ma Santé au Naturel chez Le Duc, et vous ouvrez votre herboristerie à Aulnay-sous-Bois le 22 janvier prochain. Ça s'appelle Phytessence. Bonjour Léonard Anthony.
Bonjour.
Vous avez étudié la méditation et le yoga Nidra en Inde. Vous êtes praticien en hypnose écologique et vous publiez chez Overjoy, Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres. Alors Léonard Anthony, traditionnellement à cette époque de l'année, on se sent tous sur les rotules. Mais vous défendez-vous l'idée que la fatigue doit devenir une alliée?
Oui, c'est vrai. Parce que j'ai noté que beaucoup de gens perdent énormément d'énergie à lutter contre la fatigue. Or, la fatigue est un signal qui vous veut du bien. C'est un signal qui vous dit, il est temps de ralentir. Et puisqu'on est en début d'année, je dirais, je fais le vœu que les gens apprennent à entendre ce signal-là pour sortir de cette spirale, de cette roue du hamster dans laquelle on est trop souvent et trop longtemps pris.
Alors, il existe non pas une, mais des fatigues. Quelle est la différence entre une fatigue normale et une fatigue anormale, docteur Laurent Chevalier?
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, Ali, il faut faire la différence entre ce qui va être un petit peu du surmenage, à quelque chose de passager et où on va récupérer, et puis des fatigues qui sont un petit peu plus profondes. Alors sur les fatigues qui sont un peu plus profondes, des fois c'est un signe, mais c'est aussi un signe clinique, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une baisse de la fonction thyroïdienne, une hypothyroïdie, vous allez fatiguer. Si vous développez une maladie auto-immune, vous allez être fatigué aussi. Donc c'est un signe clinique pour nous. Après, il y a d'autres fatigues, des fatigues nerveuses, dépressives, des fatigues physiques aussi qui sont liées au sport, là les fatigues après des virus, ça on connaît très bien sur le plan médical, parce que par exemple quand vous faites une infection avec un cytomégalovirus, vous avez aussi une fatigue qui est un petit peu longue. Et puis vous avez aussi des troubles du sommeil qui entraînent une fatigue. Donc vous voyez, il faut faire la distinction entre tous ces types de fatigues. Mais comme vient de le dire Anthony, là, il faut aussi, c'est un signe du corps, c'est-à-dire que c'est un signe d'appel du corps, il faut respecter ça. Mais si vous permettez, je voudrais insister sur un point aujourd'hui, ce sont un petit peu les rythmes biologiques. Mmh. C'est-à-dire que on ne respecte plus les rythmes biologiques. Alors il y a des rythmes quotidiens, ce qu'on appelle le rythme circadien, et puis on a des rythmes saisonniers. Et actuellement, on est en hiver. Et nos anciens savaient très bien qu'en hiver, on se repose. C'est-à-dire que si on a un conseil à donner à nos auditeurs aujourd'hui,
c'est qu'il faut respecter les saisons et tout simplement se coucher un petit peu plus tôt, dormir un petit peu plus, et comme ça, on participera à préserver ces rythmes biologiques saisonniers.
À ce propos, docteur Chevalier, faut-il s'inquiéter si on se sent fatigué dès le réveil ?
Alors, la fatigue dès le réveil, effectivement, c'est un petit peu une fatigue d'épuisement. Donc, c'est plutôt une fatigue avec une tendance un petit peu dépressive, une fatigue un petit peu nerveuse. Et puis, on a des moyens de, en s'alimentant mieux, en prenant des plantes, de combattre un petit peu tout ça.
Caroline Gaillet.
Oui, alors je ne peux qu'abonder dans tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, il y a plein de remèdes à la fatigue selon la cause de la fatigue. Une fatigue liée à une anémie en fer, bon, on la traite pas pareil qu'une fatigue nerveuse dépressive. Donc là aussi, chaque fatigue a son remède, je dirais, et je vais aussi dans le sens de Laurent sur ce qu'il dit sur les saisons. Je suis co-auteur avec Charlotte Jacquet, qui est une naturopathe spécialisée, enfin qui défend vraiment une approche par saison. Et effectivement, en hiver, il faudrait ralentir, hein, les animaux hibernent d'ailleurs, et nous, en fait, on fait l'inverse. En hiver, on trime et l'été, on se repose. Il faudrait faire plutôt l'inverse.
Et Léonard Anthony ?
Alors, je pense qu'il y a aussi un élément supplémentaire qu'il faut rajouter, qui est qu'il existe aussi des bonnes fatigues. C'est un point important. Par exemple, vous faites du sport, ça génère une bonne fatigue qui permet aussi d'évacuer un certain nombre de mauvaises fatigues, évidemment dans tout contexte pathologique mis à part, dont a parlé le médecin. Et ça, c'est une chose auquel il faut penser à aller à la rencontre. Et là, quelles que soient les saisons, de manière raisonnable, avoir une bonne activité physique permet de générer une bonne fatigue qui permet aussi à la mauvaise fatigue nerveuse de s'évacuer.
Alors, le contexte de la crise sanitaire accentue notre fatigue. En faisant une étude très sérieuse auprès d'un échantillon de 5 personnes dans notre bureau, tout le monde se sent fatigué. La fatigue, c'est l'un des sujets de conversation récurrents autour de moi. Une phrase que l'on entend souvent en ce moment, c'est « j'en peux plus, je suis lessivé, je ne vois pas le bout du tunnel ». Surtout dans ce contexte de crise sanitaire sans fin, Léonard Anthony.
Ah oui, c'est sûr que aujourd'hui, moi je l'ai vu, vous savez, pendant la pandémie, j'ai fait une vidéo pour une chaîne qui s'appelle Brut et la vidéo a dépassé les 6 millions de vues. J'ai vu le nombre de messages qui augmentait sans cesse, de gens qui me disaient « mais qu'est-ce que je peux faire ?» pratiquement, et c'est ce qui a donné l'écriture de ce livre « Goodbye Fatigue » que vous avez nommé tout à l'heure. Et je pense que c'est un point clé, c'est-à-dire que le fait de ne pas voir le bout du tunnel, de se sentir étouffé, mais aussi de réaliser, parce que c'est une dimension très importante, que nous étions déjà en train de courir comme des hamsters dans une spirale. Et cette pandémie a eu un mérite, c'est celle de nous obliger à poser un pied à terre et de se rendre compte que la vie peut être autre. On n'est pas obligé de s'épuiser en permanence.
Caroline Gaillet.
Oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui ont eu ces prises de conscience de faire un retour à l'essentiel et de prioriser ce qui mérite de l'être et de mettre sur... Et c'est vrai qu'on s'épuise trop et c'est dommage parce qu'en fait, c'est toute la santé qui en pâtit, la santé hormonale, la santé métabolique, endocrinienne, enfin, ça retentit sur...
J'aimerais qu'on accueille Jérémy Pelletier. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
Vous étiez vendredi dans notre émission consacrée à la fête, mais vous êtes par ailleurs directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez avec la CFDT l'étude Une société fatiguée. Vous avez interrogé plus de 16 000 personnes et la fatigue arrive en tête des 13 qualificatifs que les Français pouvaient choisir pour qualifier leur état d'esprit en cette période de crise sanitaire. Les Françaises et les Français se sentent donc très fatigués. Quel est le portrait robot de nos concitoyens crevés et quelles sont les professions les plus touchées
Alors déjà, ce qui était très intéressant, c'est que c'était la première fois effectivement qu'on mettait la fatigue, vous savez, dans la liste des qualificatifs. On met souvent, vous savez, l'inquiétude, la nervosité pour demander effectivement aux Françaises et aux Français comment ils se sentent. Et là, effectivement, en novembre, dans cette enquête-là, 17% des Français citaient la fatigue comme le premier qualificatif, effectivement, qui caractérise le mieux leur état d'esprit. Et donc, quand on regarde effectivement le portrait robot, on s'aperçoit que vous avez, par exemple, les femmes de moins de 35 ans qui se disent beaucoup plus fatigué que la moyenne effectivement des Français et beaucoup plus fatigué par exemple que les jeunes hommes de moins de 35 ans. Vous avez aussi certaines professions. Vous avez les agriculteurs, vous avez les exploitants, vous avez les professions intermédiaires. Et un élément très intéressant dans le contexte dans lequel on est et quand on pense notamment aux personnels hospitaliers, vous avez les personnes qui travaillent dans le public, les salariés du public. Et un autre élément aussi très intéressant, vous savez quand on parle de charge mentale, c'est un terme effectivement qui revient beaucoup dans le débat public, vous avez celles et ceux qui ont un emprunt immobilier à rembourser chaque mois qui sont et qui se disent en tout cas beaucoup plus fatigués que les personnes qui n'ont pas d'emprunt immobilier à rembourser. Et puis évidemment, parce que nous sommes une fondation politique et vous l'avez dit, on a fait cette étude avec la CFDT, l'intérêt était aussi de regarder s'il y avait une certaine fatigue militante. Et quand on regarde les différentes sympathies partisanes, on s'aperçoit que les sympathisants de gauche aujourd'hui se disent beaucoup plus fatigués, par exemple, que les sympathisants de droite. On peut les comprendre au vu de l'état actuel du débat public et de l'état du débat politique.
Alors, quelles sont les principales raisons de cette fatigue, de ces fatigues?
Alors, on l'a dit, effectivement, il y a un ras-le-bol. Il y a aussi, vous savez, une certaine incompréhension aussi par rapport à la période. Et l'incompréhension, la difficulté de caractériser le moment, la difficulté aussi de se projeter dans l'avenir, effectivement, donne un sentiment effectivement de fatigue généralisée, une espèce de ras-le-bol qui crée effectivement cette fatigue. Après, il y a plein d'autres raisons, mais que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Il y a la question du sommeil. Ce qui était très intéressant dans toutes les enquêtes qu'on a faites, c'était que durant la crise, vous aviez un nombre très important de Français qui disaient avoir des troubles de sommeil beaucoup plus importants qu'avant la crise. Quand vous regardez effectivement d'autres enquêtes, on a publié un baromètre des émotions pendant les vacances, et vous avez 60% des Français qui se disent beaucoup plus fatigués qu'avant la crise. Et un autre élément très intéressant, je pense, qui est à mettre en lien avec la fatigue, c'est, vous savez, la dimension de vulnérabilité et la dimension très émotive. Et en gros, vous avez un Français sur deux qui se disent beaucoup plus sensibles et beaucoup plus émotifs qu'avant la crise. Et donc ça, ce caractère très vulnérable, cette absence de résistance vis-à-vis d'un certain nombre d'événements et donc l'incapacité effectivement à résister est liée aussi beaucoup au sentiment de fatigue qu'on peut avoir.
Léonard Anthony.
Oui, c'est très très juste sur plein de plans. Et je pense qu'il y a une dimension qu'il faut prendre en compte aussi dans le contexte, qui est celle de devoir réagir en permanence. Je vous donne un exemple. On a eu la période des fêtes avec des annonces qui n'ont cessé de changer concernant Omicron. Et ça a généré beaucoup de débats dans le cercle familial. Et moi, je donne le premier conseil que je donne, c'est préservez-vous de ces discussions parce que les experts, déjà, ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, à trouver des idées. Nous, vous imaginez bien qu'on n'est pas du tout sur ce plan-là. Donc, il y a une dimension clé qui est dans cette période-là d'incertitude profonde. Il faut faire attention à ne pas s'épuiser dans des débats qui n'ont aucun fond.
Alors, depuis 2 ans, on l'a vu, le contexte sanitaire nous fatigue, le port du masque, les mesures sanitaires, les incivilités, l'agressivité des Absolument. Uns et des autres. Jade nous écrit d'ailleurs, l'agressivité généralisée dans le métro, dans la rue, quand je fais mes courses, me pompe une énergie folle. Que faire? Et vous, Léonard Anthony, vous préconisez la théorie de la tangente. C'est-à-dire contourner l'obstacle plutôt que de s'y confronter, si je vous ai bien lu. Expliquez-nous cette théorie de la tangente.
Et vous avez très bien lu. Pour faire simple, moi j'ai été dans cette situation-là, puisque je prends les transports quasiment tous les jours en région parisienne, et longtemps, bien, j'ai voulu, disons, faire la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Et mes travaux sur l'hypnose m'ont amené à changer de posture. Je me suis rendu compte très souvent que quand quelqu'un vient en face de moi, si j'essaye de résoudre ou d'emmener la personne à résoudre de façon frontale, on n'y arrive pas. L'hypnose nous amène à replacer l'individu dans un contexte et de voir les choses autrement. Eh bien, si tout d'un coup, quand quelqu'un, pour prendre un exemple concret, vous bouscule dans le métro, plutôt que de le rebousculer ou de l'insulter, cette histoire-là, vous allez la vivre, vous allez la répéter 42 fois dans la journée et vous allez vous épuiser non seulement en la vivant, mais en la ressassant. Si tout d'un coup vous vous écartez, vous vous prenez la tangente de la situation, et c'est valable dans bien des cas, au bureau, même en couple, en pleine situation, eh bien tout d'un coup vous évacuez une tonne de fatigue et une grande partie d'elle ne va même pas vous atteindre. Mmh. C'est ça la théorie de la tangente, mais ça s'apprend.
Première solution donc ce matin pour lutter naturellement contre une certaine forme d'épuisement, c'est donc la théorie de la tangente. Alors la charge mentale peut conduire évidemment à la fatigue, à l'épuisement, voire à une forme de burn-out parental. Alors pour lutter contre cette charge mentale qui nous épuise, Léonard Anthony, vous plaidez pour un égoïsme positif. L'égoïsme positif, ça peut ressembler à un oxymore. Expliquez-nous un petit peu ce que ça...
C'est un bel oxymore. Voilà ce que je crois profondément. Beaucoup de gens ont décidé de mettre leur vie à la périphérie de leur existence. C'est-à-dire qu'ils sont dans le sacrifice permanent. Et vous savez, j'ai pris l'avion hier, par exemple. Et dans l'avion, on nous dit une chose très simple. On nous dit, si vous êtes avec des enfants, mettez le masque d'abord sur vous et ensuite sur votre enfant. Eh bien, c'est ça l'égoïsme positif. C'est se replacer au centre de l'existence. La vie, c'est un cadeau magnifique, hein, quel que soit le contexte. Si vous prenez soin de vous, si vous êtes reposer. Si vous êtes en relation avec le monde du vivant, vous pourrez être beaucoup plus efficace et attentionné avec tous ceux que vous souhaiterez aider.
Cet égoïsme positif, si je vous comprends bien, c'est d'abord admettre qu'on n'a pas la solution à tout et d'accepter qu'on ne peut pas tout affronter.
C'est choisir ses batailles. Parce que toutes les batailles, comme on vient de le dire juste un instant sur le métro ou ailleurs, le bus, dans voiture, eh bien, va amener à s'épuiser et à épuiser ce que la vie a à vous offrir. Parce que quand vous êtes en colère, quand vous êtes chargé d'émotions, eh bien, pendant ce temps-là, il se passe des choses qui passent et vous allez passer à côté. Mais ça s'apprend, c'est ça qui est important. C'est que ça paraît évident une fois qu'on se le dit ici autour de la table, mais c'est tout sauf évident. C'est-à-dire que ce qui paraissait évident pendant des siècles est de moins en moins évident parce que nous sommes dans un monde qui accélère en permanence, avec une charge qui augmente sans cesse. Prenez une mère au foyer aujourd'hui, elle doit savoir tout faire. Ça devient impossible à gérer. Donc il faut aussi, il y a une autre dimension, il faut savoir aussi être un peu plus tranquille vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire se dire, je ne peux pas être parfaite sur tout. Je ne peux pas être parfait sur tout. Je ne peux pas être et ingénieur et professeur à la maison.
On ne peut pas être parfait. Pourtant, on se jette à corps perdu dans un tas d'injonctions qui nous épuisent.
Oui, mais c'est notre vie quotidienne. Vous savez, je disais ça encore, il y a une personne qui était venue me voir la semaine dernière et qui voulait absolument pratiquer la méditation. Ce qui, a priori, a des bienfaits. Mais elle s'était posée une injonction, c'est-à-dire qu'elle regardait sur Instagram des femmes qui étaient à Bali, vous voyez, où le soleil se lève à 5h du matin, et évidemment, mais ici, il ne se lève pas à 5h. Et donc, elle se disait, mais j'arrive pas à faire la méditation à 5h du matin. Je dis, mais foutez la paix à la méditation. Et voyez comment ça peut répondre. Donc, cet tas d'injonctions, et en plus, le digital aujourd'hui a créé une source incommensurable d'injonctions, qui ne nous correspondent pas et qui épuisent même l'existence.
Caroline Gaillet.
Oui, alors moi je voudrais juste dire en termes de remèdes en phyto, on a des plantes qu'on dit des plantes adaptogènes, qui sont justement des plantes qui ont des capacités à augmenter notre capacité à nous adapter. Et dans cette société où tout va toujours plus vite, tout le temps, où on se met la barre hyper haute, eh bien ça peut nous aider. Et typiquement, alors on en a plusieurs, on va avoir l'éleutérocoque, une plante très intéressante à la fois chez l'étudiant, chez le sportif, parce qu'elle va jouer pour nous aider sur l'endurance à la fois physique mais aussi intellectuelle. Et une plante vraiment très intéressante. On peut aussi citer la rhodiola, qui est, vous le parliez tout à l'heure, du burn-out parental et de Léonard, de cette mère au foyer, surtout les mamans solo qui doivent tout gérer de bout en bout et chez qui cette fatigue peut emmener un petit état dépressif. Et bien la rhodiola est une plante adaptogène qui en plus va aider sur les troubles de l'humeur. Et ce sont deux grandes aides pour ces types de situations-là.
On reviendra tout à l'heure sur ces plantes dites adaptogènes comme le ginseng par exemple. Oui. On s'intéressera également au sommeil, à l'alimentation, afin de retrouver la forme. Et en attendant, on écoute les Beach Boys, Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's by my excitations. Good vibrations. Pour bien commencer l'année 2022.
Fatigué ?
Crevé.
Grand bien vous fasse.
Ah, je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi ?
Ali Rebéi.
Moi, je frise le coma.
Sur France Inter.
10h27 et ce matin, nous vous aidons à lutter naturellement contre la fatigue. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale. Tiens, docteur Laurent Chevalier, beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Faut-il prendre des compléments alimentaires pour lutter contre la fatigue? Compléments alimentaires à base de vitamine C ou de magnésium. Est-ce que c'est utile ou pas, Laurent Chevalier?
Alors, je dirais à la fois oui et non.
C'est-à-dire
merci. Que normalement, quand vous prenez des compléments, c'est parce que vous avez un déficit. Donc, ça se regarde sur une prise de sang. Mm-hmm. Alors, si vous manquez de vitamine D, il faut prendre une supplémentation en vitamine D. Ça, c'est très clair. Après, on va pas tout regarder, évidemment. Mais pour la vitamine C, eh bien, l'idéal, c'est de prendre dans l'alimentation cette vitamine C. Pourquoi ? Parce que cette vitamine C, dans l'aliment, dans le fruit, eh bien, elle va agir en synergie. C'est-à-dire qu'elle va permettre une meilleure absorption du fer, elle va permettre que les vitamines, notamment la vitamine B9, fonctionnent mieux. Donc, il faut avoir cet apport en vitamine C. On considère que les besoins quotidiens sont d'à peu près 110 mg de vitamine C par jour. Normalement, si vous consommez 3 fruits frais par jour, eh bien, vous êtes couvert. Et puis, vous avez un fruit qu'on trouve en hiver et qui est quand même extrêmement bien, c'est le kiwi. Le kiwi contient à peu près 80 mg de vitamine C. Donc, vous commencez votre journée avec un kiwi, eh bien, ça a vraiment du sens. En plus, il contient de la vitamine E, avec les petits grains noirs, etc. Donc, on peut prendre avant tout des éléments qui vont apporter ces vitamines. Et après, on peut être amené à se supplémenter un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux compléments. D'abord, tous les compléments ne se valent pas. Certains sont fabriqués, par exemple, en Asie, on n'a pas toujours, on ne sait pas toujours quel type de solvant a été utilisé, etc. Donc, il y a un peu de tout dans les compléments. Donc, il faut faire un petit peu attention. En même temps, il ne faut pas non plus se l'interdire. Mais je voudrais aussi insister sur un point. Donc, ça nous arrive de prescrire, évidemment, des compléments alimentaires à nos patients. C'est aussi un aspect très important dans cette fatigue hivernale, c'est d'aller à la lumière. Vous savez, on parle beaucoup de la luminothérapie, et donc on prescrit des compléments, mais on leur demande aussi comment ils vivent. Et deux choses, premièrement, sortez dès que vous pouvez, vous savez qu'on passe pratiquement 80% du temps en intérieur, voire plus, et là il faut vraiment sortir dès qu'il fait beau, et ça c'est très très important contre la fatigue. Et deuxièmement, on pose la question de savoir comment ils sont, c'est-à-dire que dès que quelqu'un a un enthousiasme, a une dynamique, eh bien il se sent beaucoup moins fatigué. Demandez à Caroline qui va monter son herboristerie, elle a peut-être une petite fatigue physique, mais je suis sûr qu'elle est enthousiaste et en pleine forme.
Caroline Gaillet, je rappelle que vous êtes diététicienne et phytothérapeute.
Oui, alors tout à fait Laurent, je suis fatiguée physiquement, mais c'est de la bonne fatigue, parce que très enthousiasmante. Oui, donc effectivement, la base de base dans les troubles à fatigue, c'est l'alimentation. Donc là, j'abonde dans le sens de ce que Laurent a dit. C'est toujours les grands basiques, mais des fruits et des légumes frais, de saison. Les saisons ne sont pas là par hasard, et certains aliments apportent les nutriments dont on a spécifiquement besoin à la dite saison. Et après, c'est le sommeil. Si on n'a pas un sommeil de qualité et d'amplitude suffisante, certes, on est fatigué, et avant d'aller prendre des compléments alimentaires, toujours revoir ces deux fondamentaux que sont l'alimentation et la qualité de son sommeil, quitte à prendre des plantes pour le sommeil justement, mais travailler plutôt en approche causale, plutôt que de se dire « je suis à plat et je vais aller me prendre un petit complément », mais sans revoir ma qualité de vie, comment je mange et comment je dors.
C'est très important ce que nous dit Caroline Gaillet, Léonard Anthony, il est très important de bien identifier les raisons de notre mauvais sommeil.
Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Caroline. Il y a une chose qui est fondamentale, qui est que le sommeil est un moment de vie. Voilà. Trop longtemps, on a considéré le sommeil comme une zone de notre existence qu'il fallait mettre de côté. On sait que le corps se régénère, que les idées se réorganisent, on va stocker ce qui est important, on va se reposer. Et c'est une zone qu'il faut considérer en tant que telle. Donc il faut apprendre non seulement à dormir, mais il faut aussi apprendre à créer les conditions pour bien dormir. Et c'est ça qui est fondamental. Alors je vais rappeler des évidences, si vous êtes d'accord. La première des choses, c'est n'emmenez pas d'écran dans votre chambre.
Difficile, ça.
C'est hyper dur. Attendez, moi, les gens que je viens de voir, on travaille là-dessus. Et c'est pour ça que j'écris dans ce livre.
Et vous préconisez, par exemple, de laisser le portable dans une autre pièce que la chambre, de le laisser dans la salle à manger, dans la cuisine, de ne pas faire pénétrer un écran, une tablette, un téléphone dans la chambre. Ça, c'est fondamental. Oui. C'est difficile, mais...
Ouais, c'est hyper... D'abord, je suis honoré. Merci d'avoir lu aussi avec attentivement le livre. Mais une chose est claire, c'est si vous laissez votre smartphone se reposer, en plaisantant un peu, mais vous allez en tirer un bénéfice considérable. Investissez dans un vieux radio-réveil. Ou, moi, j'ai un système de luminothérapie qui m'éveille le matin. Donc, on change, on se réveille pas, on s'éveille. Déjà, on est plus en forme. Mais si on revient au coucher, si vous êtes une seconde, je voudrais juste dire qu'il faudra, en n'amenant pas un écran dans votre chambre, on a tout ce qu'on sait sur les lumières bleues, mais il y a aussi l'excitation qui est liée. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder une série sur une plateforme thriller, et ben vous allez avoir vachement de mal à dormir. Ça va intervenir dans vos rêves, dans votre sommeil, ça va l'agiter. Autre chose, si votre téléphone est à côté, vous allez être tenté de regarder l'heure au milieu de la nuit. Mais c'est une ouverture sur le monde. Vous allez voir ce qui se passe en Indonésie, un tremblement de terre, en Australie, et puis, paf, vous dormez plus. Donc c'est une intrusion dans vos nuits. Donc dégagez tout ça, et aussi prenez le temps de ralentir au moment du coucher. C'est-à-dire, dites-vous, c'est comme un coureur, vous savez, à la fin de sa course, il continue de trotter, et puis il marche, et il ralentit le rythme. Eh bien, d'aller se coucher doit intégrer cette dimension-là. Et encore une fois, tout ça, ça prend.
Et puis le matin, au réveil, ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais c'est de ne pas se lever d'un coup. C'est de procéder pendant quelques minutes à une série d'étirements, de présence avec soi au moment du réveil. C'est très important, ça.
Ça, c'est clair. C'est la différence entre se réveiller et s'éveiller. Imaginez, et rappelons-nous une chose fondamentale, nous faisons partie d'un écosystème, nous faisons partie de la nature. La nature, elle s'éveille doucement. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous sommes un organisme vivant. Nous avons besoin de nous remettre en mouvement. Nous avons besoin de prendre quelques inspirations. Et c'est là le fondement d'une journée qui sera totalement différente.
Alors, quand on le peut, au cours de la journée, on peut faire des micro-siestes ou alors de véritables siestes le week-end.
Ah ben, moi, je fais la sieste tous les jours.
Ouais. La question du week-end est très importante. Ouais. Il est important de ne rien faire le week-end, de reconquérir son week-end, de ne plus en faire une course d'obligations diverses et variées. Essayer de se déconnecter pendant ce congé de fin de semaine, de ne pas travailler. Alors, je sais que c'est difficile, mais la reconquête du week-end, c'est essentiel pour recouvrer une certaine forme.
Voilà, je vais vous parler en deux mots de ce que je fais. Moi, je fais des micro-siestes tous les jours. Si je ne fais pas, je suis bon à rien. Et la sieste, le week-end, je fais des vraies siestes. Et donc, c'est aussi une nouvelle dimension. C'est celle de se dire, c'est un temps de repos le week-end. Là encore, si on peut toujours rajouter des choses, hein, ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est là où j'ai fait la distinction entre deux notions. Rien faire et faire rien.
Expliquez-nous.
Parce que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir, par exemple, qui me disent, mon adolescent, il passe sa vie dans le canapé, justement, accroupi, et il fait rien. Je dis, attends, est-ce qu'il fait vraiment rien? Il dit, il est avec son téléphone, il est sur les réseaux sociaux, il est sur TikTok ou ailleurs. Il dit, mais ça, c'est pas ça. Moi, on va apprendre à faire rien. C'est-à-dire, faire rien, c'est actif. Je vais explorer le rien comme une dimension où je peux me régénérer, où je peux laisser jaillir toutes les sources d'énergie qui, elles, sont qui s'épuisent parce qu'elles ne sont jamais sollicitées. Eh bien, le week-end, c'est le moment d'apprendre à faire rien. Peut-être d'aller faire une promenade dans un parc ou dans une forêt, de se remettre en relation, de respirer. Et il n'y a pas besoin d'être yogi pour faire ça. On a tous ces facultés-là, il suffit de les laisser rejaillir et de leur donner vie.
Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès, sur les liens entre la fatigue et le numérique.
C'est très intéressant parce que effectivement, le sommeil dit beaucoup de choses en fait, et le manque de sommeil dit beaucoup de choses de notre société. Vous avez parlé du numérique. Effectivement, les écrans sont en grande partie responsables de ce chiffre que je trouve fou, qui est que au cours des 50 dernières années, les pays occidentaux ont perdu environ 1h30 de sommeil en moyenne par nuit, ce qui équivaut sur un an à une cinquantaine de nuits. Et effectivement, le numérique est en grande partie responsable de ça parce que il vous donne le sentiment de pouvoir vivre 24 heures sur 24, alors qu'évidemment, un individu lambda ne peut pas vivre effectivement 24 heures sur 24. Par ailleurs, je trouve que le rapport au sommeil dit beaucoup de choses sur, vous savez, la société de la performance. Longtemps, dans notre société, il était bien vu, effectivement, de dire je suis capable, moi, de dormir 2 heures par nuit, je suis capable de dormir 3 heures par nuit, et cela ne m'empêche pas d'être bien performant le lendemain. Or, je trouve que, et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens, désormais, assument dire je suis fatigué, je trouve que c'est une bonne évolution de la société, parce qu'on assume, effectivement, ce qui était longtemps considéré comme un aveu de faiblesse, comme un signe de faiblesse, alors qu'effectivement, être fatigué est un signe qui dit beaucoup de choses, mais qui n'est pas forcément un aveu de faiblesse.
Léonard Anthony ?
Oui, je voulais juste revenir, vous avez raison de souligner ces points-là, mais sur la question du numérique. Nous, Homo sapiens, ça fait 300 000 ans qu'on est sur Terre. L'irruption du numérique, elle s'est faite il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait 1 million de smartphones. On a mis des siècles avant d'apprendre à se brosser les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est une réalité. Eh bien, moi, j'ai consacré un chapitre entier à la fatigue et au numérique parce qu'il nous faut qu'on apprenne à vivre avec le numérique. On est dans l'âge du numérique. On est en train de devenir homo numericus. Bien. C'est comme l'hygiène du corps. Si on n'apprend pas, le numérique, c'est formidable sur plein d'aspects. Mais si on n'apprend pas à avoir une relation avec le numérique va nous épuiser. Parce que c'est lui qui gagne. Les serveurs, à travers le monde, ont une puissance bien plus importante que nous.
Alors, vous nous conseillez, tiens, à propos de numérique, de désactiver les notifications. Ça, c'est un pas important pour ne pas être épuisé par cette emprise numérique.
Je l'ai symbolisé en une phrase dans le début de ce chapitre. Je dis, posez-vous la question de savoir qui tient qui. Est-ce que c'est vous qui tenez votre téléphone ou c'est le téléphone qui vous tient? La question est rhétorique. C'est le téléphone qui nous tient. Le début de la liberté, et c'est une liberté difficile, c'est de désactiver toutes les notifications pour aller sur smartphone quand vous voulez et pas quand lui veut que vous y allez. Parce que sinon, il va vous épuiser, croyez-moi, c'est une bataille perdue.
Tiens, revenons à la question du sommeil, Caroline Gaillet. Quelles sont les stratégies naturelles pour essayer de retrouver le sommeil? Est-ce qu'il y a des plantes qui sont indiquées avec des preuves scientifiques, évidemment, à l'appui, hein ?
Oui, alors vous avez la passiflore, vous avez la valériane, vous avez les scholtzia, qui sont des plantes dites GABAergiques, en fait. Elles vont augmenter dans le cerveau le GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique, et qui est un neurotransmetteur inhibiteur, en fait, et qui calme, justement, qui... Entre guillemets, on dit que ce sont des plantes qui débranchent le cerveau, quoi. Ça vous évite de ruminer, de trop penser, de ressasser votre journée. Et qui vont aussi, pour la valériane, avoir un effet de détente musculaire, de relâchement propice à bien s'endormir. Ça va aussi travailler sur l'angoisse, l'anxiété, les petites nervosités qu'on peut avoir à l'approche du sommeil. La nuit, c'est, en psychologie, c'est la petite mort. Donc, il y a toute cette peur du noir et voilà. Et après, il y a d'autres plantes plus douces. Il y a la camomille, le tilleul, le coquelicot qui peuvent aussi être prises, la lavande. On a aussi des huiles essentielles qui peuvent être intéressantes à diffuser dans sa chambre le soir. Je pense à la lavande fine, à la mandarine. Et dans les contextes de fatigue, au ravintsara. Alors, ravintsara, on en a beaucoup parlé pour son côté immunitaire. Mais le ravintsara est une huile essentielle dite neurotonique. C'est-à-dire que quand on la respire, quand on la diffuse le matin, elle est plutôt énergisante. Et à l'inverse, quand on la diffuse le soir, elle est plutôt calmante, sédative et invite au repos.
Docteur Laurent Chevalier ?
Oui, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que vient de dire Caroline. Quand on voit nos patients, on a quand même beaucoup de situations différentes. On a effectivement des petits et des grands dormeurs. Et puis, on a des gens qui sont plutôt du matin, plutôt du soir. Et puis, vis-à-vis du numérique, on a aussi des gens qui s'endorment devant la télévision. Donc, c'est effectivement un excitant. Mais je suis tout à fait d'accord sur la notion qu'il y a un beau ou mauvais usage du numérique. On le bannit pas forcément complètement. C'est-à-dire que quand quelqu'un a du mal à s'endormir, il faut absolument qu'il évite de prendre des médicaments, bien entendu, il prend des plantes. Mais on va lui apprendre aussi à respirer. Et on a des applications qui sont extrêmement intéressantes, de cohérence cardiaque, où les gens, en respirant beaucoup mieux, vont pouvoir petit à petit s'endormir. Et ça, ils ont besoin, malheureusement, malgré tout, un petit peu de leur téléphone pour ça.
Rappelez aussi en un mot ce qu'est la cohérence cardiaque, en quelques mots.
La cohérence cardiaque, c'est une respiration qui est très ample, une expiration qui est aussi très profonde. On fait ça pendant 5 minutes et en fait, c'est une détente extraordinaire et on a des preuves scientifiques de son intérêt, notamment par exemple dans l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que la tension artérielle va baisser lorsqu'on fait ces exercices. Alors on peut le faire aussi au moment de la sieste, effectivement. On peut le faire le soir. Donc tout ça fait des outils qui sont intéressants. On a aussi des outils intéressants, des applications avec l'hypnose qui peuvent aider. Donc on a une multitude de possibilités, mais effectivement, ça je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il y a un bon et mauvais usage du numérique.
Alors Anthony, sur notre page Facebook, nous écrit ceci. Faire des siestes le week-end, l'idée est très séduisante, mais comment faire quand on a de jeunes enfants? Les petits ne connaissent pas le concept de week-end ou de jour férié. Léonard Anthony.
C'est une réalité, c'est vrai, il a raison. Mais voilà un usage du numérique qui peut être intéressant. Moi que j'ai fait lâchement, hein. Il y a des moments où parce que je pouvais pas faire autrement, je leur mettais un dessin animé et j'allais dormir.
Très bien, lâche. C'est
ouais,
pas bien ça.
Non mais je le dis, je le reconnais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi je vous dis ça? Parce que si je faisais pas ça, eh bien, j'étais irritable. Et du coup, avec mes enfants, on avait une relation qui était épuisante. Donc, il s'agit pas de les mettre 3 heures devant un écran. Mais si vous avez besoin de 20 minutes pour fermer les yeux et vous reposer, eh bien, soyez lâche parfois. C'est ça aussi l'égoïsme positif.
Bonjour Hélène, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne et vous nous avez écrit pour nous indiquer comment vous vous êtes débarrassée d'une fatigue chronique.
Oui, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Voilà, le médecin m'expliquait que c'était la vieillerie qui s'installait à 45 ans. J'ai changé d'alimentation, en fait, par plaisir. Vraiment, je ne cherchais rien, je n'attendais strictement rien au niveau de ma santé. Et j'ai vu ce syndrome disparaître, entre autres, parmi tant d'autres. Alors, j'ai beaucoup supprimé d'aliments au départ, mais je ne le conseille plus maintenant. On peut y arriver de façon beaucoup plus douce. Et pour moi, la clé, c'est de revenir à l'alimentation qui me convient personnellement. C'est vraiment d'individualiser l'alimentation. Les fruits et les légumes, oui, mais tous les fruits, tous les légumes ne conviennent pas à tout le monde. Il y a une question de rythme également, de quantité. Et 3 fruits par jour, c'est parfois trop pour certaines personnes, en fait. Donc, c'est vraiment à chacun de sentir. En fait, ce qui est chouette dans cette approche, c'est qu'il n'y a pas d'éviction globale de catégorie d'aliments. Et dans chaque catégorie, on va trouver des aliments qui nous conviennent. Voilà, moi personnellement, je supporte certaines céréales, mais pas d'autres, certaines viandes, mais pas d'autres, certains légumes, mais pas d'autres. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Hélène.
Si je peux juste compléter par rapport à ce qui a été dit, par rapport au sommeil, avec cette technique-là, j'ai retrouvé un sommeil de bébé. Et par rapport à l'individualisation, moi, par exemple, le yoga m'a apporté du stress. La cohérence cardiaque m'a apporté du stress. Ouais. Alors, j'ai fait à ma sauce, en fait. Voilà. Pour moi, la clé, c'est vraiment de revenir à ce qui nous convient.
Léonard Anthony.
En un mot, une des personnes que vous connaissez bien, qui est le professeur Gabriel Perlemutter, avec lequel je collabore, dit exactement ce
qu'on a. Jeudi dans l'émission.
Eh ben, vous pourrez le saluer de ma part. Il dit, sur les personnes qui m'envoient, on voit que l'individualisation est clé. Ça, c'est important parce qu'on ne dort pas tous de la même façon, on ne réagit pas tous aux aliments de la même façon, et ça, c'est une dimension importante. Et il y a juste un point, cette dame a dit un mot fondamental qui est plaisir. On oppose trop souvent fatigue et plaisir. Or, de considérer sa fatigue ouvre à la possibilité de pouvoir suppurer et profiter d'un grand nombre de plaisirs.
Merci beaucoup Hélène. Alors docteur Laurent Chevalier, on a parlé d'individualisation de l'alimentation, mais tout de même, quel type d'alimentation peut contribuer à fatiguer notre organisme? Intuitivement, on sent bien que si on mange tous les jours de la raclette, des hamburgers, des biscuits, des produits chocolatés, des plats industriels, des sodas, ça va certes nous réconforter, mais ça ne va pas forcément contribuer à lutter contre notre fatigue.
Alors effectivement, il y a quand même des petits dénominateurs communs. Et il y en a deux qui sont essentiels, c'est de faire attention que l'alimentation ne soit pas trop grasse, puisque ça va fatiguer le foie, puisque la vidange gastrique, c'est-à-dire que on va digérer beaucoup plus lentement, et tout ça, ça va fatiguer. Et puis la deuxième chose tout à fait fondamentale, ce sont les boissons alcoolisées, c'est-à-dire l'excès de boissons alcoolisées, et notamment le soir. C'est absolument catastrophique. On a beaucoup trop de personnes qui ont tendance à boire des boissons alcoolisées le soir, puisqu'il est un petit peu sédatif. Mais en fait, ça détruit complètement l'architecture du sommeil pendant la nuit. Donc on se réveille le matin fatigué. Donc, les deux aspects fondamentaux, une alimentation pas trop grasse et
pas de boissons alcoolisées. En plus, moi, on peut militer aussi pour la proposition pas de boissons alcoolisées du tout pendant le mois de janvier, ce qui est quand même une très bonne idée. Ensuite, bien entendu, il faut faire attention à cette alimentation industrielle, puisque il y a tout un tas d'additifs, il y a tout un tas de polluants qui vont fatiguer, et puis il y a l'absorption de toutes ces microparticules de plastique. Quand on a une alimentation trop industrielle, vous savez que ceux qui ont une alimentation qui est très orientée vers des plats tout faits, etc., emballés, eh bien, ils absorbent à peu près l'équivalent d'une carte bancaire par semaine en termes de microplastique. Et tout ça, ça a des effets, bien entendu. Et tous les produits qui sont pollués aussi, eh bien, l'organisme cherche à les dépolluer, enfin, cherche à dépolluer notamment le foie. Mais tout ça, ça fatigue l'organisme. Donc, avoir une alimentation très riche en fruits et légumes, variés et parfois cuits, parce que effectivement, il peut y avoir parfois des intolérances sur l'excès de cru. De prendre 3 fois par semaine de la viande, parce qu'on a besoin d'un fer de bonne qualité, d'un fer aminé qui est bien absorbé. Et puis, de poissons de façon régulière, et notamment des poissons qui contiennent des oméga-3, c'est-à-dire, vous le savez... les sardines, le maquereau, le saumon, le flétan, les anchois, tout ça, il faut diversifier. Donc, effectivement, il faut rien s'interdire, comme ce qui a été dit. Il faut écouter effectivement son corps. Il y a des gens qui vont faire des intolérances à tel ou tel produit, parfois même des allergies. Mais il y a quand même des éléments de base qu'on vient d'indiquer.
Caroline Gaillet.
Oui, c'est très bien, Laurent. Je voulais juste rebondir sur 2 choses. Alors, pas trop de plats gras et d'alcool. Et du coup, l'effet corollaire qu'il y a souvent en journée, c'est l'excès de café. C'est que du coup, on va être crevé et on va s'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 cafés. Or, le café est un excitant qui, justement, va contribuer à nous déminéraliser encore davantage. Et quand on puise dans ses réserves en magnésium, notamment, et ben, c'est toute une cascade de réactions qui se font de moins en moins bien dans l'organisme et qui entretiennent la fatigue. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était...
Eh ben, ce sera après la chronique de Baptiste Beaulieu, Caroline Gaillet. Il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de notre cher médecin et romancier.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Bonsoir, Baptiste Beaulieu. Je ne sais pas si vous me lirez. Je vous écris cette lettre parce que ce soir, je pleure allongé entre mon bébé de 4 mois et mon petit garçon de 3 ans et demi. Ils dorment et moi, je crève d'amour pour eux et de trouille aussi. Je suis fatigué de ce Covid, de les avoir fait dans ce monde. Je lis avec attention les articles de vulgarisation que vous publiez sur Instagram, mais j'ai l'impression qu'il y a désormais, pour les soignants, d'un côté les gentils, les vaccinés, et de l'autre les méchants, les non-vaccinés. Je ne suis pas vacciné, Baptiste, mais je ne pense pas non plus que le Covid soit un petit rhume. J'ai peur. Je file la trouille au bide. Je regarde mes enfants et cet abîme de peur ne me quitte plus. Je respecte les gestes barrières plus que la plupart des vaccinés. Je suis la seule à avoir fait un test PCR payé de ma poche, du coup, pour les fêtes. Ma vie sociale est réduite à néant. Les personnes non vaccinées ne sont pas forcément toutes anti-vaccins. Moi, si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'au départ, j'étais enceinte. J'étais au bout du rouleau quand je suis allé voir mon médecin. Il m'a dit « Oh là là, vous êtes enceinte et vous allaitez. Pas de vaccin pour vous. » Quand le vaccin est devenu conseillé aux femmes enceintes, j'étais presque à terme. Puis pour l'allaitement, aucune étude n'avait été au départ été faite et le centre de référencement demandait d'ailleurs des retours de la part des médecins et des mamans allaitantes. Moi, mon bébé a presque 5 mois, j'avais pas envie qu'il serve de cobaye. Nous ne sommes pas forcément les méchants, juste des gens qui ont peur. Moi, j'ai peur d'attraper le Covid et de mourir, mais j'ai peur de ne plus avoir de lait pour mon bébé si je me fais vacciner. J'ai peur car mon corps ne m'appartient plus, il a servi à porter et à construire mes enfants et les nourrit encore. Voilà. Voilà, Ali, le courrier que j'ai reçu de la part d'une lectrice. Et si je vous le partage aujourd'hui, Ali, c'est parce que le 29 décembre 2021, le ministre de la Santé a eu cette phrase lors d'une conférence. Nous n'envisageons évidemment pas d'empêcher l'accès aux soins des personnes non vaccinées, même si de plus en plus de Français s'interrogent sur ce que la collectivité doit consentir au bénéfice de celles et ceux qui refusent le vaccin. Cette phrase, dans la bouche d'un ministre de la Santé, est pernicieuse. Le climat est malsain. En un an, on a créé une société lardée de lignes de fracture, Ali, où la pandémie a opposé les personnes âgées aux jeunes, puis les jeunes aux personnes âgées, puis les personnes en surpoids ou à facteur de risque aux personnes sans facteur de risque, puis les vaccinés aux non-vaccinés. En tant que soignant épuisé, je suis en colère contre les personnes non-vaccinées, mais je veux critiquer ce sentiment, car il ne me rend pas heureux d'abord, et cette colère est mal dirigée, je crois. Alors, je ne parle pas des personnes qui font leur beurre sur le complotisme, que ce soit les politiciens ou les vendeurs de miracles sur Internet. Je parle du citoyen qui a peur, tout simplement. Peur du virus, peur du vaccin, peur pour lui, pour ses proches. Aussi, je remercie vraiment, mais vraiment du fond du cœur, cette lectrice d'avoir pris le temps de m'écrire. parce qu'elle m'a rappelé que je ne suis personne pour juger la peur des autres, que la peur je connais, et que toute personne faisant l'expérience de la condition humaine la connaît à son tour. Le docteur Lucky Tran, qui travaille à l'université de Cambridge, a écrit « Nous ne sommes pas en train d'apprendre à vivre avec le Covid, nous ne sommes pas en train d'apprendre à vivre avec le Covid. Lorsque nous renonçons à protéger notre système de santé, les travailleurs ou les immunodéprimés et toutes les personnes vulnérables, en réalité, nous capitulons devant le Covid. Je crois qu'il a mille fois raison, Ali, et je crois que je capitule aussi chaque fois que je laisse ma colère dominer ma raison et mes émotions. »
Et vous pouvez podcaster la chronique « Alors voilà » de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter. Dans un instant, on s'intéresse au yoga ou à la méditation pour lutter naturellement contre la fatigue. Et en attendant, on écoute Stromae qui interprète « Santé ».
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Stromae, interprété Santé.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
10h53 et ce matin, nous vous aidons à lutter contre la fatigue naturellement. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Beaucoup, beaucoup de questions sur les plantes qui permettent de recouvrer la forme. Caroline Gaillet, je rappelle que vous êtes diététicienne et phytothérapeute. Vous avez parlé tout à l'heure de plantes adaptogènes comme le ginseng, l'éleutérocoque ou la rhodiole. Que sait-on de l'évaluation scientifique de ces plantes adaptogènes et dans quel cas les prendre?
Alors pour le coup, il y a eu pas mal d'études scientifiques sur des échantillons hyper vastes de personnes et il y en a encore actuellement. Donc c'est des plantes qui sont plutôt bien sourcées quant à leur efficacité. Et dans quel cas les prendre? Ben effectivement, c'est quand on a fait gaffe à son sommeil, revu son alimentation et que malgré tout, on demeure fatigué avec beaucoup de choses à mener. Quand on a un petit côté un peu tristoune, un peu déprimé, ben, la rhodiola, c'est vraiment celle vers laquelle il faut se tourner. Quand on est plutôt étudiant avec une charge intellectuelle assez soutenue ou le cadre supérieur qui bosse beaucoup ou celui l'étudiant aussi sportif ou le sportif pas étudiant d'ailleurs, l'éleutérocoque c'est plutôt lui. Ginseng est une plante vraiment du seigneur, elle a une action très très globale, très générale. Donc à partir de la quarantaine, avant 40 ans, le ginseng pas forcément. Alors
je suis
un raccourci seigneur 40 ans,
Caroline Gaillet, je suis seigneur.
Non, pas du tout.
Mais non mais c'est pas grave.
Voilà, à partir de la quarantaine, je voulais dire, pardon.
Laurent Chevalier, docteur Laurent Chevalier, vous vous avez d'autres plantes à nous conseiller?
Oui, alors, déjà sur le ginseng, il y a des ginseng qui sont moins efficaces que d'autres, puisqu'il faut que ce soit suffisamment vieux. Pour les léthérocoques, il y a aussi quelques contre-indications, notamment sur la tension artérielle, donc il faut faire un petit peu attention, bien entendu, avec toutes ces plantes. Moi, mes deux plantes phares, si vous voulez, dans la situation actuelle, c'est le thym. La tisane de thym, c'est tout simple. C'est une plante qui est dynamisante, qui est pas excitante, qui est pas du tout comme le café justement. Donc elle est très intéressante. Donc prendre tisane de thym le matin, tisane de thym dans l'après-midi.
Pendant combien de temps il faut la prendre cette tisane? 15 jours, 3 semaines,
voilà,
un mois?
On va la prendre en 15 jours et à peu près 15 jours en renouvelle si besoin. Et donc le thym. Et puis on peut prendre des gélules de valériane justement pour avoir un bon sommeil et si on a un côté un petit peu dépressif. Donc là on va le prendre en gélule. 300 mg d'extrait sec pendant toute cette période, c'est-à-dire à peu près pendant 3 semaines. Et en général, on a des très très bons résultats avec ça. Alors évidemment, il faut l'adapter en fonction des situations et des personnes. Mais ces deux plantes sont des plantes très très intéressantes, le thym et la valériane.
Léonard Anthony, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, spécialiste en méditation et en yoga. De quelle manière ces pratiques psychocorporelles peuvent nous permettre à retrouver un certain tonus?
Alors, je vais faire un petit rappel, si vous voulez bien, parce que c'est une question passionnante. La première des choses, c'est que l'être humain est un mammifère. Un mammifère est en mouvement. Nous, aujourd'hui, nous sommes la plupart du temps assis sur des chaises, devant des ordinateurs, et nous ne sommes plus en mouvement qui génère un certain nombre de fatigues physiologiques. C'est pour ça que le sport est une bonne chose. Néanmoins, je trouve qu'on se trompe beaucoup, notamment en Occident et maintenant partout dans le monde, sur la question du yoga. Parce qu'au fond, il faut rappeler qu'est-ce que le cœur du yoga ? Le cœur du yoga, c'est la mise en correspondance avec tout ce qui vit. C'est ça le cœur du yoga. Et la méditation fait partie du yoga. Si on relit les Yoga Sutras de Patanjali, qui est le texte fondateur, l'aboutissement, c'est la libération. Eh bien, de remettre son corps en mouvement, de ressentir chaque mouvement, et donc c'est pas de les enchaîner à toute vitesse, faire 15 salutations au soleil, nouvelle injonction, d'accord ? C'est de ressentir, de s'installer dans le mouvement, de respirer dans le mouvement, jusqu'à aller à la méditation, parce que c'est le prolongement naturel, où je reste immobile, et le mouvement est spirituel, ou purement psychique, eh bien, c'est là où on peut aussi évacuer, sans aucun effort, une tonne de fatigue.
À titre personnel, mon astuce pour lutter contre la fatigue, c'est de marcher. C'est la marche dans la nature, ou la marche en ville, et qui est une forme de méditation aussi.
Absolument.
Moi, je me déconnecte, je marche pendant trois quarts d'heure, une heure ou plus. Et c'est vrai que ça contribue dans un ensemble de pratiques à limiter ma fatigue.
Pour vous parler dans le prolongement de ce que vous dites, il y a beaucoup de gens à qui j'ai appris, j'ai fait des séances donc d'hypnose ou deux, et pour arriver à être dans l'auto-hypnose de marche, où on apprend à traîner ses pieds, à ralentir, pour qu'à chaque pas, la fatigue se dissipe à nouveau sans effort. Donc vous êtes totalement juste.
Un mot de conclusion, Léonard Anthony, pour nos auditeurs voilà, qui essayent de lutter contre cette fatigue qui les accable dès ce début d'année.
Je leur dirais, ne laissez pas la vie passer à côté de vous. La vie est un cadeau extraordinaire. C'est un fondement de l'existence. Nous avons une chance, nous sommes sur une planète qui intègre la vie, d'être en relation avec elle, de comprendre les cycles de la nature, d'entendre, de les ressentir, de réapprendre tout ça, vous permettra de dire en toute simplicité goodbye fatigue et de ne plus la subir.
Merci à tous, merci docteur Laurent Chevalier en duplex de France Bleu à Montpellier. Nous remercions nos amis à France Bleu Montpellier. Merci Léonard Anthony, goodbye fatigue, c'est publié chez Overjoy. Merci Caroline Gaillet, ma santé au naturel, c'est sorti chez Le Duc. Et merci Jérémy Pelletier. On peut retrouver votre étude sur la fatigue sur
le site de la Fondation Jean Jaurès.
Demain, on s'intéresse aux vertus de l'inattendu dans nos vies.